Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement à l'écoute de A Cup of Tea avec Janine Rogers. Lors de notre dernière émission, nous nous sommes plongés dans Orgueil et préjugés. Il serait temps maintenant de faire la connaissance de l'auteur. Nous avons peu d'informations sur ce que fut la vie de Jane. Après le mariage de sa sœur Cassandra, elle entretint avec elle une correspondance presque journalière. Malheureusement, cette dernière brûla toutes les lettres après la mort de Jane. Cela aurait été une mine de renseignements, car les deux sœurs étaient très liées. Nous savons simplement qu'à 27 ans, elle fut demandée en mariage par un riche héritier, mais qu'elle refusa de l'épouser et resta célibataire. Pourtant, cette union aurait été un bienfait pour sa famille, en grande difficulté financière. Quelques années plus tard, elle écrira à l'une de ses nièces qui lui demandait conseil « Tout doit être préféré ou supporté » plutôt que se marier sans affection. Jane est née en 1775 dans le Hampshire, côté sud-est de l'Angleterre. Son père est recteur de la paroisse anglicane. La famille se compose de 6 garçons et 2 filles. Ce sera d'ailleurs l'un des frères, Henry, qui sera son agent littéraire pour ses premières publications. Elle passe un an en pension où elle étudie, comme toutes les jeunes filles de son âge, la couture, la broderie, la danse, la musique. Mais très vite, elle rejoint le cocon familial qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa mort. Très jeune, elle écrit des scénettes jouées par la famille, des poèmes et même des récits qu'elle soumettra à l'approbation des siens. Son père lui fournit le papier, les plumes et l'encre dont elle a besoin et lui ouvre sa bibliothèque. Lorsqu'elle n'écrit pas, elle joue du pianoforte, dirige avec sa mère la domesticité, rend visite à ses amis, les reçoit. Elle profite aussi de toutes les occasions pour aller danser, ce qu'elle aime particulièrement. Et aussi, très pieuse, elle va régulièrement au temple. Mais surtout, elle écrit. Les dates de publication de ses romans sont souvent postérieures aux dates d'écriture, car elle aura des problèmes pour se faire publier. N'oubliez pas que c'est une femme de plus célibataire. Disons merci à Jane d'avoir ouvert la voie. En 1800, le révérend Austin décide de quitter son ministère et toute la famille s'installe à Bath. Jane est bouleversée et elle va cesser d'écrire. Elle ne retrouvera son équilibre que 9 ans plus tard, lorsque l'un de ses frères met à sa disposition et à celle de ses sœurs et de leur mère un cottage où elles peuvent mener une vie calme. Entre-temps, le révérend Austin était décédé, laissant les 3 femmes sans ressources. Dans ce nouveau contexte, Jane retrouve le goût de l'écriture et remanie considérablement son texte. Mais en 1816, sa santé commence à se dégrader et elle décédera un an après, à l'âge de 41 ans. Elle avait travaillé jusqu'à la fin. Henry, son frère, fera paraître 2 romans posthumes, Persuasion et l'Abbaye de Northanger. Intéressons-nous maintenant à Orgueil et préjugés. 2 thèmes courent le long du livre, l'argent et le mariage. Ils sont liés. À cette époque et dans ce milieu bourgeois, si elle veut s'assurer une sécurité de vie et un statut social, la femme n'a qu'une solution, se marier. C'est pourquoi, dès le tout début du roman, Mrs. Bennet, qui a 5 filles, est obsédée par la course au jeune homme riche. De plus, les Bennett n'ayant pas de fils, au décès de Monsieur Bennett, l'héritage passera aux plus proches parents, en l'occurrence un neveu, Monsieur Collins, clergyman peu séduisant, peu intelligent, pompeux et prétentieux, que Jane ne se privera pas de caricaturer. Il tentera sans cesse d'épouser l'une ou l'autre de ses cousines pour atténuer le préjudice qu'il leur cause. En effet, Mrs. Bennet et ses filles resteront, comme je l'ai dit, sans aucune ressource, les femmes n'ayant pas le droit d'hériter. Voici un passage du premier chapitre. Le livre s'ouvre sur une conversation entre Madame Bennet et son mari. « Savez-vous, mon cher ami, dit un jour Mrs. Bennet à son mari, que Netherfield Park est enfin loué ?» Mr. Bennet l'ignorait. « Vous n'avez donc pas envie de savoir qui s'y installe ?»« Vous brûlez de me le dire et je ne vois aucun inconvénient à l'apprendre. » »« Eh bien, mon ami, le nouveau locataire de Netherfield serait un jeune homme très riche du nord de l'Angleterre. Il est venu lundi dernier en chaise de poste pour visiter la propriété et il s'est immédiatement entendu avec Madame Morris. Il doit s'y installer avant la Saint-Michel et plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaine prochaine afin de mettre la maison en état. Comment s'appelle-t-il ? Bingley. Marié ou célibataire ? Oh, mon ami, célibataire et très riche, 4 ou 5 000 livres de rente. Quelle chance pour nos filles. Nos filles? En quoi cela les touche-t-il? Que vous êtes agaçant, mon ami. Je pense que vous le devinez bien, qu'il pourrait être un parti pour l'une d'elles. C'est pourquoi vous ferez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée. Monsieur Bennet n'a aucune envie de rendre visite à ce monsieur Bingley. « Mais enfin, insiste Madame Bennet, il faut absolument que vous alliez voir Monsieur Bingley dès qu'il sera notre voisin. Pensez un peu à vos enfants, à ce que serait pour l'une d'elles un tel établissement. Sir William et Lady Lucas ont résolu d'y aller uniquement pour cette raison. Et vous savez que d'ordinaire, ils ne font jamais visite aux nouveaux venus. Il faut que nous le voyions avant eux. » « Je suis persuadée que M. Bingley serait enchanté de vous voir, » répliqua M. Bennet, « et je pourrais vous confier quelques lignes pour l'assurer de mon chaleureux consentement à son mariage avec celle de mes filles qu'il voudra bien choisir. Je crois toutefois que je mettrai un mot en faveur de ma petite Lisée. »«
Quelle idée ! Lisée n'a rien de plus que les autres. Elle est beaucoup moins jolie que Jane et n'a pas sa vivacité. »
« Certes, elles n'ont pas grand-chose pour les recommander les unes ni les autres. Elles sont sottes et ignorantes, comme toutes les jeunes filles. Lisée, pourtant, a un peu plus d'esprit. » Madame Bennet, devant le refus de son mari, lui dit « Ah, vous ne vous rendez pas compte de ce que je souffre ? Monsieur Bennet, j'espère cependant que vous prendrez le dessus et que vous vivrez assez longtemps pour voir de nombreux jeunes gens pourvus de 4 000 livres de rente venir s'installer dans le voisinage. » On trouve là en résumé tout l'art de Jane Austen, son art narratif, en quelques répliques la situation est posée, les personnages, et elle écrira plus loin, « Monsieur Bennet aimait la campagne, les livres, et ses goûts sont la ressource de ses principales jouissances. La seule chose dont il fut redevable à sa femme, était l'amusement que lui procurait son ignorance et sa sottise. Ce n'est évidemment pas le genre de bonheur qu'un homme souhaite devoir à sa femme, mais à défaut du reste, un philosophe se contente des distractions qui sont à sa portée. » Vous voyez là l'ironie percutante de Jane Austen. Il y a aussi son sens du dialogue. Nous avons vu qu'une conversation de quelques minutes suffit à dresser le portrait des personnages. C'est la banalité, la médiocrité qui l'entoure que Jane décrit. Et Virginia Woolf, qui a écrit d'admirables pages sur Jane Austen, dira « On dirait parfois que Jane Austen fait naître ses personnages dans le seul but de se procurer le suprême plaisir de leur trancher la tête. Elle est heureuse et satisfaite. Pour rien au monde, elle ne voudrait changer un seul cheveu de place, déplacer une brique, un brin d'herbe, dans un monde qui lui offre des plaisirs aussi délicieux. »
ajoutons que dès le début du XXe siècle, l'œuvre de Jane Austen, et spécialement Orgueil et Préjugés, fut adaptée au cinéma et pour la télévision avec plus ou moins de bonheur. Virginia Woolf a écrit une préface sur Orgueil et Préjugés, qui est évidemment une excellente critique. Et elle dit à un moment, quoi de plus naturel pour Jane Austen, qui savait si bien en pénétrer la profondeur, d'avoir choisi d'écrire sur les banalités de la vie quotidienne, sur des réceptions, sur des pique-niques et sur des bals provinciaux. Et c'est vrai que Jane Austen a une connaissance du monde, vivant uniquement au milieu de sa famille et de ses amis. Et Virginia Woolf ajoute encore, « Austen est l'artiste la plus parfaite, l'écrivain dont les livres sont immortels. » Qu'ajouter à cela, sinon que je vous souhaite une bonne lecture. Notre prochain rendez-vous se passera en compagnie de trois sœurs, Anne, Charlotte, et je vous laisse deviner à la fois le prénom de la troisième et leur nom de famille.